Au micro, bonjour à tous. Au micro, Sylvie Ligi, qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. En ce début d'année, au nom de G-Call et de La Paix Maintenant, je vous présente nos meilleurs vœux au plan personnel pour chacun de vous et je réaffirme notre soutien à ceux qui, sur le terrain, se mobilisent pour qu'advienne une solution politique au conflit israélo-palestinien et pour qu'Israël demeure un État démocratique. Le samedi 3 janvier, des milliers de manifestants se sont rassemblés place Habima à Tel Aviv pour marquer le 3e anniversaire de la déclaration du ministre de la Justice Yariv Levin de ses intentions de coup d'État judiciaire qu'il appelle lui « réforme ». S'est exprimé au cours de ce rassemblement le professeur Aaron Barak, ancien président de la Cour suprême, autorité juridique respectée dans le monde entier et qui a tenu des propos d'une âpreté exceptionnelle et tout à fait pertinent. David Chemla, vous êtes secrétaire général de G-Call et vous revenez d'un séjour en Israël où vous avez rencontré des tas de gens, des députés, des membres du kibbutz Kfar Aza. Vous avez participé à des réunions d'appartements et bien sûr, vous êtes descendu dans la rue à Tel Aviv pour manifester. Vous allez nous raconter tout cela. Bonjour David.
Bonjour Sylvie.
Alors, racontez-nous un peu quelle est l'ambiance générale en ce moment en Israël.
Bien, j'étais ce 3 janvier, place Habima, à participer à la manifestation auquel vous faites allusion. Effectivement, le professeur Aaron Barak, qui n'a pas l'habitude, il a dit, de tenir des discours lors de manifestations depuis le début de la réforme judiciaire. C'est la première fois en tout cas qu'il prenait la parole, c'était un message enregistré. A dit quelque chose de très important à la question qui lui était posée, est-ce qu'Israël est encore une démocratie libérale? Il a répondu par la négative, en argumentant les pourquoi ce n'était pas le cas. Vous avez... Je crois traduit une partie, oui. La totalité de ce discours. Et c'est important de s'y référer. Parce que justement, c'est moi qui vais très souvent en Israël et qui, depuis 3 ans, même avant le 7 octobre, ai participé à beaucoup de manifestations. J'ai senti là, ce 3 juin, qu'il y avait un changement d'ambiance. À savoir que la gravité de la situation, n'oublions pas que l'on est dans une année électorale en 2026, et tout le monde en est conscient, les enjeux sont très importants par rapport à ces élections, on en reparlera. Et il y a une mobilisation de plus en plus forte, dans les deux camps d'ailleurs, par rapport à cette échéance. Et dans la manifestation, les mots d'ordre étaient plus durs qu'avant.
Oui, notamment, quel genre de slogan
bah, notamment, Sheikh Mabrisler, une des chefs de file de la contestation, qui est une scientifique de haut niveau, mondialement aussi reconnue sur le plan... internationale, qui ne veut pas, elle, s'engager en politique, mais qui a été un des leaders et qui est toujours un des leaders de la contestation, a mis en cause personnellement Netanyahou en le traitant de traître, notamment à cause de toutes les histoires liées à ce qu'on appelle le Qatargate, c'est-à-dire le fait qu'il y a un certain nombre de membres du cabinet personnel de Netanyahou qui, depuis des années, travaillaient pour le Qatar, ont été payés par le Qatar avant le 7 octobre, pendant le 7 octobre et après le 7 octobre pour faire passer des informations. Donc ça devient maintenant de plus en plus public. Il y a eu l'un d'entre eux a raconté, est en train de raconter
parce que
Feldstein, c'est en cours en ce moment dans toutes les médias israéliennes, on en parle, où il met en cause notamment je crois que c'est le chef de cabinet de Netanyahou, Braverman, qui serait aussi mêlé à ces affaires. Bref, il y a un climat difficile et il y a un durcissement du discours au niveau de la contestation et ça, c'est nouveau. Maintenant, la société israélienne, on le sait, on en parle...
Oui, parce que les gens se posent des questions, j'imagine, ont des... Par rapport à ce qui va se passer ou par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce qui pose comme question?
Bon, les gens, il y a toutes sortes de gens. Les gens sont fatigués. Deux ans de manifestations contre la réforme judiciaire, ça mobilise beaucoup de gens. Et aussi, il y a quand même beaucoup de gens qui ont été atteints par cette guerre, soit personnellement dans leur famille, il y a quand même eu près de 2000 morts entre ceux du 7 octobre et les soldats qui ont été tués pendant la guerre. 20 000 blessés, on n'en parle pas beaucoup.
20 000 blessés.
20 000 blessés, alors blessés, toutes sortes de blessures, mais beaucoup d'amputés, de soldats jeunes qui ont perdu des membres, et beaucoup de traumatismes, beaucoup de post-trauma. Encore, je lisais hier qu'un jeune soldat qui a fait 700 jours de réserve depuis le 7 octobre s'est suicidé cette semaine. Et il y a comme cela, on le sait, malheureusement, des soldats, ce sont toujours des tragédies individuelles. On ne peut pas généraliser, on ne sait pas quelles sont les histoires de chacun, mais il est certain que c'est une des conséquences de la guerre. Et cela, c'est un des gros problèmes que les gens... On n'en parle pas beaucoup, mais on le sait. Et puis, par ailleurs, il y a un manque de médecins, il y a un manque de soignants. Vous parliez de Kfar Aza, qui est un kibbutz près de la frontière de Gaza, qui a été attaqué le 7 octobre, où il y a eu une soixantaine, je crois, de victimes qui ont été tuées et des otages pris. Les gens de Kfar Aza ont été déplacés dans un autre kibbutz intérieur, un peu plus dans le Negev, un peu plus à l'est, qui est le kibbutz Rouhama. Et j'étais à Rouhama avec un membre du kibbutz qui m'a amené à Kfar Aza. On ne peut y rentrer d'ailleurs qu'accompagné. Il y a des soldats à la porte du kibbutz qui ne laissent pas rentrer. Les gens ne sont pas encore revenus à Kfar Aza.
Les habitants ne sont pas encore revenus.
Très peu sont revenus. Et c'est un grand kibbutz, Kfar Aza. Il y avait plusieurs centaines d'habitants. C'est pas 200-300, je crois qu'il y avait plus de 1000 personnes, je crois. Il y a tout un débat, parce qu'il y a tout un quartier, qui est le quartier des jeunes, qui se trouvait à la lisière du kibbutz vers Gaza, qui a été saccagé, où là où il y a eu toutes les victimes dont on a beaucoup parlé. Et il y a une personne qui nous guidait sur place, qui a perdu sa fille ce jour-là, qui était lui-même aussi membre du kibbutz, et qui disait qu'il voulait absolument conserver les bâtiments brûlés, détruits, comme témoignage. Et d'autres membres du kibbutz qui veulent y revenir disent « Non, on ne veut pas vivre à côté de bâtiments brûlés. Si on veut reconstruire notre vie, il faut pouvoir reconstruire complètement. » Alors, je sais que dans un autre kibbutz, au kibbutz Berry qui est à côté, ils ont conservé un bâtiment brûlé en souvenir et ils commencent à reconstruire. Là, à Kfar Aza, il y a tout un quartier qui a été reconstruit par un mouvement de bénévoles, ce qu'on appelle un groupe qui s'appelle Achim Laneshek, c'est-à-dire les frères de
frères d'armes,
qui est une association de la société civile qui, dès le 8 octobre, a pris en main la gestion du pays parce que l'État était défaillant.
Oui, on avait interviewé ici la déléguée pour la France.
Et donc Frères d'Armes a organisé la reconstruction de tout un quartier de Kfar Aza par bénévolement. Des gens, chacun y accordait en fonction de son métier. Un électricien venait, des maçons, des peintres, tout le monde. Ils ont construit tout un quartier comme ça. Ça, c'est impressionnant. On est partagé entre un pays qui est quand même encore sous le traumatisme. Il y a encore des témoignages, notamment d'une jeune otage qui a raconté les viols qu'elle a subis. Et on en a beaucoup parlé. Donc, toujours le traumatisme, la fatigue et la recherche d'une solution. Et tout ça dans...
Alors, justement, dans le cadre des solutions, si je puis dire, il y a cette contestation qui a quelques personnalités qui sont chefs de file. Vous parliez de Chikma Bressler qui en est une, il y a Moshe Radman, il y a Amidror, d'autres. Et donc, elle n'a pas voulu rentrer en politique, donc elle reste avec son étendard, son drapeau en étendard systématiquement. Mais plusieurs leaders de la contestation, notamment Moshe Radman, qui jusqu'à récemment disait qu'il ne voulait pas s'engager en politique, donc lui, Amidror et bien d'autres. Ont rejoint le parti Hademokratim, les démocrates, qui en fait est la fusion entre les travaillistes Avoda et Meretz, et qui est dirigé par Yair Golan. Donc tous ces gens-là ont rejoint, alors qu'ils n'étaient pas politiques, Amidror, qui est aussi de Achim Laneshek, frère et sœur d'armes.
Tout à fait.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils ont rejoint?
Écoutez, c'était une réflexion qui avait lieu depuis pas mal de mois. Certains pensaient même faire un parti de la contestation. Il y a eu des cas dans l'histoire du pays. Il y a une quinzaine d'années, il y avait la révolte des tentes, on appelait ça, qui a donné lieu ensuite à un parti, etc. Et ensuite, qui a disparu. Mais Yesh Atid est né de moments de contestation aussi. Mais là, ils ont compris, c'est ce qu'ils ont déclaré eux-mêmes, que la contestation ne peut pas rester uniquement sur le plan civil et qu'il faut se transformer en mouvement politique. Et ça, c'est leur conclusion. Ils ont rejoint, c'était 4-5 leaders, effectivement, ont rejoint le Parti des démocrates la semaine dernière. On fait une conférence, disons, publique pour l'annoncer. Ils ne cherchent pas, disent-ils, des places, parce que vous savez, le système israélien, comme on vote pour des listes. Alors, on vote, je ne sais pas, pour, mettons, Yair Golan et le chef de file, mais il y aura 10, 15, 20 potentiellement députés derrière lui. Le deuxième, le troisième, enfin, c'est important de savoir qui sera, parce que ceux-là ont des garanties pour entrer, le dixième ou le quatorzième, mais pas forcément. Donc, mais ils ont bien
pour
dit
entrer, c'est rentrer, pour être, par,
rentrer, être élu député à la Knesset.
Voilà.
Hein. Donc, c'est ça. Mais là, ils disent, bon, on verra, il y aura des primaires, c'est un parti démocrate, comme son nom l'indique, il y aura des primaires au sein du parti pour fixer l'ordre dans lequel les candidats seront présentés aux élections. Il y a aussi des candidats religieux dans le parti, des membres en tout cas. Une grande figure, Gilad Kariv, qui est aujourd'hui député à la Knesset du Parti des démocrates, qui est lui-même rabbin libéral, qui est une personnalité très forte et qui parle quotidiennement enfin, à la Knesset dans des commissions et en plénière. Ce qui est toujours très intéressant quand on l'écoute, c'est qu'il enracine souvent ses déclarations dans le judaïsme en se référant à des textes et en se montrant que c'est en se basant sur les valeurs du judaïsme même qu'il bâtit son engagement politique. Et ça, je crois que c'est très important à savoir.
Et alors, dites-moi, mais enfin, je sais bien que vous n'avez pas de boule de cristal, mais Quel impact peut avoir ce ralliement, justement, ou ce ralliement ? Le fait que les chefs de file, les leaders de la contestation rejoignent un parti comme celui des démocrates, quel impact est-ce que ça peut avoir sur la mobilisation citoyenne, sur le résultat des élections ? Enfin, voilà.
Alors, écoutez, difficile à savoir maintenant, ça, c'est une décision encore récente. Mais il faut quand même rappeler qu'il y a eu près de 2 millions de personnes enfin, depuis 2022, quand on a commencé ce gouvernement, au début de janvier 23, puisqu'on c'est là qu'il y a eu la déclaration de la réforme juridique. Il y a eu près de 2 millions de personnes ont manifesté, c'est énorme. Alors, ne serait-ce que 10% de ces 2 millions de manifestants, s'ils votaient pour le Parti des démocrates, ce qui n'est pas forcément pas gagné du tout, ça apporte beaucoup de mandats. Et voilà. On estime aujourd'hui qu'un mandat, c'est 40 000 à peu près votes, à peu près 40 à 50 000 votes. Alors, il y a une autre dimension dont on parle beaucoup dans les partis et dans la mobilisation, ce sont les Israéliens à l'étranger. Il y en a eu près de 200 000 et même, j'ai entendu, 300 000 qui seraient partis depuis 3 ans. C'est énorme. Ça, pour une fois, pour la première année en 2025, la balance était négative entre les Olim d'un côté et qu'on appelle les Yordim, mais ils sont pas les Yordim, c'est ceux qui partent, qui sont pas forcément des gens qui partent pour longtemps, on ne sait pas, ils partent pour des études, pour un an, pour 2 ans, puis après la vie fait ce qu'elle fait, on s'installe, des fois là on arrive. Et donc c'est très important de faire en sorte que tous les électeurs potentiels reviennent voter le jour des élections, on en reparlera certainement, parce que il y a des voix, évidemment, à ne pas perdre. Alors, et dernier élément important, c'est aussi le vote arabe, entre guillemets, ce qu'on appelle le vote arabe. Vous savez, il y a 20% de la population en Israël qui sont des Arabes israéliens, donc ils ont le droit de vote. Hein. Ils sont, entre guillemets, représentés à la Knesset, bien que certains votent pour des partis juifs aussi, entre guillemets, mais ils sont représentés par 3 partis politiques aujourd'hui, qui, depuis les dernières années, parfois se présentent en rang dispersé, parfois sur une liste commune. Quand ils se sont présentés il y a quelques années sur une liste commune, ils ont eu 15 mandats, ce qui est
15
énorme.
15 mandats, oui,
c'était
énorme.
Il y a une dizaine d'années, je ne sais plus à peu près. Et là, maintenant, il y a une dizaine de députés arabes à la Knesset, des partis, entre guillemets, arabes, parce qu'il peut y avoir des députés arabes aussi sur des partis
juifs.
Voilà. Et donc, tout l'enjeu de savoir comment vont-ils d'abord, ce qu'ils viendront voter. Alors, tous les leaders, à part Yair Golan, de tous les partis politiques, prétendent ne pas vouloir faire de coalition avec des représentants des partis arabes. Mansour Abbas, qui est le parti représentant du parti Ram, qui a déjà participé dans la coalition précédente avec Naftali Bennett et Yair Lapid, avant le gouvernement actuel, Mansour Abbas a été interviewé à la télé et on lui a posé la question. Il a dit, premièrement, il y a, ça remonte à 5-6 ans maintenant, quand il a accepté de signer avec Bennett et Lapid, rappelez-vous cette image où ils ont signé ensemble un papier, et Gantz aussi, pour pouvoir créer une coalition. Il a dit qu'une demi-heure avant que je signe avec Lapid et Bennett, Netanyahou me téléphonait pour que je signe avec lui. Donc Netanyahou a beau dire aujourd'hui qu'il n'irait pas avec les partis arabes, il est susceptible d'y aller s'il en a besoin. Et on a reposé la question à Mansour Abbas, le journaliste, mais est-ce que vous parlez aujourd'hui avec Bennett, qui prétend ne pas vouloir aller avec des partis arabes s'il devait avoir à créer une coalition? Et il a dit, je parle avec tout le monde. Hein, donc,
oui, c'est donc ça la réalité. Tout est encore ouvert.
Et hier, Golan, à la différence de tout le monde, dit, écoutez, on est dans une démocratie, 20% de la population sont des Arabes israéliens, chrétiens ou musulmans. Ils sont représentés à Knesset. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas également dans le gouvernement si on crée une coalition. Il faut le faire pour des raisons morales et purement ou des raisons mathématiques, parce qu'il faut une coalition. Les sondages aujourd'hui, ils changent de semaine en semaine, mais en gros, ils sont à peu près constants. La coalition autour de Netanyahou tourne autour de 50, 52, voilà, dans les bons jours, 53 députés. Il en faut 61, rappelez-vous, puisqu'il y a 120 députés à la Knesset. Et l'opposition dans sa constitution actuelle, parce qu'il peut y avoir des changements de parti, tourne autour de 58. Et au milieu, il y a une dizaine de députés arabes qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre.
Ce seront eux les faiseurs de roi.
Ce seront les faiseurs de roi, ils le savent. Mais si on annonce dès le départ qu'on ne fera pas de coalition avec eux, beaucoup d'Arabes israéliens n'iront peut-être pas voter. Ils diront à quoi ça sert d'aller voter, ma voix ne compte pour rien. Donc c'est important que quelqu'un comme Yair Golan, qui représente aujourd'hui, je pense, au sein de la gauche israélienne, l'espoir de constituer un grand parti social-démocrate, libéral, qui a aujourd'hui dans les sondages autour de 12 députés, qui espère arriver à 15, voire plus. Ça nécessite une mobilisation et l'engagement des leaders de la contestation peut être un apport très important parce qu'il y a beaucoup de gens, de jeunes ou d'autres qui sont hésitants entre les listes du centre, même voire de la droite et des alternatives avec une volonté d'avoir un rejet aussi du gouvernement actuel, de changer la ligne menée par Netanyahou.
Voilà, bah écoutez, c'est une note d'espoir et une note positive sur laquelle je souhaitais terminer. Je vous remercie beaucoup en espérant vraiment que cette année soit meilleure que la précédente.
Tout à fait. Merci.